poser la question de la maturité. Comment on peut produire, ou en tout cas arriver à un geste artistique mûr ou mature, étant si jeune. Moi, je crois que ce qui fait la maturité de quelque chose, c'est pas tant son âge, mais plutôt comment cette chose a été nourrie. Pour les êtres vivants végétaux, par exemple, c'est le soleil qu'ils reçoivent, c'est leur environnement. Et moi, je me souviens de la première fois où Sabrine est revenue de Tunisie. Donc, c'était l'été, avant la dernière année d'école ensemble. Et on se croise dans le bus et Sabrine me dit je suis allée en Tunisie, j'ai compris des choses par rapport à mes ancêtres. Et à la fin de cette, ou 3-4 mois plus tard, Sabrine elle fera un solo, on aura tous fait ça à l'école, mais elle refera un solo un peu lié à ça, mais pas encore totalement. Et puis un an plus tard au Liban, donc on va dans un pays arabe, c'était pas la Tunisie, mais pour Sabrine c'était quelque chose de très 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 fort. Donc moi je l'ai un peu suivi là-dedans et déjà je me rappelle très bien de comment, en fait je vous parle de quelque chose qui date de 2018, donc c'est il y a 4 ans. Donc en 4 ans on a eu le temps de donner les nutriments qu'il faut à cette question pour qu'elle arrive chargée, gorgée d'eau, de fruits, de tout ce qu'il faut pour qu'on puisse s'en sustenter. Et ensuite il y a eu le travail collectif de recherche, le texte est rempli de textes qu'on a écrits, mais aussi de citations, d'auteurs. C'est pas du tout lié au fait qu'on veuille montrer qu'on a beaucoup travaillé, au contraire, parce que je crois qu'on le fait de manière très discrète, mais c'est plutôt pour dire, en fait, on s'est accompagné de différents points de vue, de différentes propositions qui sont parfois poétiques, parfois directement ancrées. Quand on cite le guide du manifestant arrêté du syndicat de la magistrature, c'est pas de la littérature du tout, mais c'est quand même un livre et c'est un outil qui est très pratique.
C'est très documenté. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a une référence, je crois que c'est un poète... parle de la bête.
C'est Mohamed Bougarsar, c'est le prix Goncourt 2021 qui a écrit La plus secrète mémoire des hommes. Et en fait, c'est un texte qui lit à France Inter, chez Augustin Trapenard, je crois. Adrien était venu avec ce texte au Théâtre National Populaire quand on avait une résidence là-bas. Et
c'était intéressant, enfin, je trouvais La bête de l'Apocalypse liée à l'abêtissement en fait, la population. C'est une interprétation originale.
Bah, disons que cet écrivain est absolument magistral. Moi, je l'ai découvert par la notoriété qu'il a eue grâce au prix. C'est un texte très fort parce qu'il est polysémique et donc qui nous fait réfléchir, en même temps il nous touche. Il faut lire ce texte, je pense, parce que ça vaut le coup, au-delà du fait qu'il soit dans le spectacle.
Alors, sur scène, au-delà des textes, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, il y a des cajots pleins de choses très très différentes. En tout cas, tout le long de la pièce, une espèce de bordel de fouillis, mais vous arrivez quand même, j'imagine, à vous y retrouver. Donc, comment vous faites ?
On nous pose souvent la question, l'utilité de ces cagettes-là, qu'est-ce qu'elles représentent ? Et en fait, avec donc Lisa Lou, moi, quand je lui ai un peu soumis le projet, je lui parlais beaucoup de mes voyages et elle s'est inspirée de ça, en fait. Donc moi, j'ai ramené beaucoup d'objets de Tunisie, du Bénin, du Liban. Donc voilà, c'était un peu une compilation de tous ces objets-là, mais aussi des objets liés à mon enfance, à des objets ancestrales. Et donc, c'est comme si, en fait, ces voyages se passaient, s'accumulaient, en fait, dans une espèce de caisse, et aussi intimement liées à la question de la révolte, où il y a plusieurs questions qui viennent, et puis, en fait, qui s'empilent, et à un moment donné, il y a une explosion qui se passe. Et ça représente un peu aussi, pour moi, le souk. Enfin, ce souk-là, le bordel, puis ben, en fait, le souk du bled, en fait, qui rappelle aussi un peu les voyages de la Tunisie, etc.
À un moment, vous avez parlé de l'Iran, et actuellement, il y a une révolte en Iran. Et il y a des artistes iraniennes qui ont apporté de l'eau au moulin, qui les ont aidés, à la fois des artistes iraniennes qui sont en France, mais qui sont aussi en Iran. Alors justement, l'artiste, est-ce qu'il est essentiel pour aider dans une révolte ?
De France ou d'ailleurs,
Je peux répondre, moi c'est un mot que je déteste absolument. Le mot essentiel, à partir du moment où il a été employé dans le débat politique, il y a eu tout un moment pendant le Covid où on s'est demandé ce qui était essentiel, non essentiel. Et en fait, malheureusement, le néocapitalisme et les gouvernements qui suivent cette marche-là appauvrissent notre langage. Donc en fait, à partir de là, qu'est-ce qui est essentiel ? Enfin, en fait, on détruit la valeur des mots. J'aime beaucoup les jeux de mots, alors je dis l'art essentiel, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'apatride, qui n'a pas de terre, qui jaillit un peu n'importe où. Et donc dans ce sens-là, oui, pour moi l'art, et je pense que je le dis parce que j'y consacre ma vie et je pense y consacrer toute ma vie, c'est une possibilité d'accéder à quelque chose qui dépasse les façonnements du quotidien. Qu'on soit en France, qu'on soit en Iran, qu'on soit une femme, qu'on soit une personne transgenre, qu'on soit une personne qui a vécu une guerre, qui n'a aucune idée de ce que la guerre est, et qui qu'on soit, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre de révéler certaines choses. Par rapport à la question de l'Iran, quand Sabrine vient nous voir en novembre 2020, elle nous dit, voilà, il y a cette histoire de Mahadé, puis en fait, pour nous, c'est pas concret. Donc ça, pour le coup, ce qu'on raconte dans ce spectacle, ça s'est vraiment passé. pas parce qu'on n'en avait rien à faire de ce qui se passait en Iran, mais juste parce qu'en fait, il y avait une difficulté aussi de clarifier le propos. Et ça, la clarification du propos a été un travail collectif. Après, ce qui s'est passé, cette femme qui a été assassinée en septembre, ça a vraiment fait bouger l'Iran. Ça nous a un peu questionnés. Puis souvent, au théâtre, il se passe des choses dans l'actualité. Ça résonne quelque part avec ce qui se passe. Je crois que l'Iran fait partie de ces pays qui sont un exemple d'oppression d'une façon absolument non cachée, comme peut l'être la Chine, qui sont complètement différents des pays qui ressemblent beaucoup plus à notre système, comme les États-Unis, sur lequel s'alignent énormément de pays européens, où l'oppression est totalement camouflée. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'en tant qu'Européens, on a du mal à comprendre. Enfin moi, je pense que j'ai du mal à comprendre ce que ça signifie, concrètement. Je vois très bien intellectuellement ce que ça signifie, mais je ne suis pas là-bas, je ne l'ai pas vécu. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne voulait pas parler de l'Iran au début. En tout cas, moi, je ne voulais pas parler juste de Mahadeh Ojabri et de me servir d'une histoire comme ça, parce que je me dis, mais tant que je n'y suis pas allé... Parce qu'en fait, l'art, c'est aussi sentir, partir de là. Donc, après, moi, je soutiens absolument ce que je vois des révolutions en Iran. Et quelle que soit la fin d'une révolte, il y a toujours des choses à comprendre, il y a toujours des choses à apprendre des personnes qui, à un moment donné, acceptent, réussissent à dire stop, parce que ces personnes prennent un risque total.
J'ai une dernière question quand même. Vous êtes donc jeunes tous les deux, vous êtes engagés en France en tant qu'artiste, comédien. Et du coup, on parle de révolte. Est-ce que vous avez la sensation qu'une révolte pourrait sourdre en France ?
Moi, je ne parlerai même pas de la France, je parlerai au niveau mondial en fait. Ouais. Moi, j'y crois toujours. Peut-être que c'est un peu naïf de ma part, mais je pense qu'à un moment donné, ce ne sera même pas la France, ce sera tout le monde. En fait, ce sera vraiment tout le monde. Il y a le témoignage que je donne à un moment donné dans le spectacle où je parle des Libanais qui ont fait une chaîne humaine sur, tout le long du littoral. Et Michel, l'étudiant qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de leader, moi, c'est une révolte qui me fait rêver, en fait. Et j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien qu'une révolte ou autre chose, en tout cas, se passe, une explosion se passe pour dire stop à toutes les contraintes et toutes les injustices qui peuvent se passer. Moi, je continue d'y croire. Je ne pense pas que ça va se passer maintenant. Peut-être dans plusieurs années, je ne sais pas, mais... C'est peut-être un rêve naïf, mais je continue d'y croire. Voilà.
Depuis quelques années, je m'intéresse aux textes spirituels et je le traite avec des personnes qui les connaissent très très bien, qui en ont fait leur vocation, d'une façon presque anthropologique. Et je réalise que dans ces textes, il est question absolument, la plupart du temps, de violence, de conflit et de rapport à la limite, à la difficulté, au fait de surmonter quelque chose et au fait de questionner, je sais pas moi, une intention ou une raison ou le motif de nos actions. Et par rapport à ça, je pense qu'on vit dans une réalité existentielle où le conflit est permanent. Et le fait que la révolte existe de manière silencieuse, c'est qu'on fait tout pour évacuer le conflit, alors que le fait de mettre le conflit en centre, c'est-à-dire d'apprendre à être en désaccord avec les gens, d'apprendre à écouter les personnes qui sont apparemment contre nous, c'est là où il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place de l'ordre de la construction d'une société. Donc pour moi, la révolte est le signe d'un échec. Et je pense que ce n'est pas du tout le remède, pas pour des raisons de non-violence, parce que je viens de dire, je pense que la violence fait partie de l'absurdité de notre condition, du fait qu'on est en vie sans savoir ni pourquoi ni comment... Je m'inspire pas mal de personnes qui parlaient de guerre permanente. Guy Debord parle de ça, il dit « nous sommes en guerre » à un moment donné où la guerre est finie. Et donc je pense que le fait de mettre à jour les réalités d'oppression et les rapports d'oppression entre les gens, pour moi c'est plus intéressant que de faire une parade dans la rue. Il faut construire quelque chose plutôt que de défouler une énergie qui peut servir.
Merci à tous deux.
Merci beaucoup d'être venus nous voir. Et là on va le jouer prochainement en mars. Au Centre culturel Charlie Chaplin de Vanvelin et au Théâtre Astrée de Villeurbanne en avril.
Merci à tous les deux.